Bonjour, bonjour à tous. On ne rigole plus avec le délai des paiements de ses fournisseurs. EDF écope d'une amende astronomique de 1,8 million d'euros pour avoir tardé à régler ses factures. Un chiffre proportionné au montant de la trésorerie immobilisée, explique le gouvernement. Ni vu ni connu, plus d'un Français sur trois avoue basculer ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute et la tendance est à la hausse. Nous serons en ligne avec la commanditaire de cette étude Ipsos pour Vinci Autoroutes. L'enquête de l'IGPN sur les événements nantais a-t-elle ignoré un témoignage intéressant? Élément de réponse dans ce journal. À Générac, dans le Gard, les habitants jouent la solidarité pour faire face aux feux de forêt. À l'étranger, les États-Unis accentuent encore la pression sur l'Iran, Christian Chéneau, avec ses sanctions qui visent désormais le chef de la diplomatie iranienne.
Oui, le patron de la diplomatie iranienne, mis à l'index par Washington, le bras de fer continue de plus belle entre Américains et Iraniens.
Élection partielle à haut risque au Pays de Galles qui pourrait compromettre la courte majorité du Premier ministre Boris Johnson. Jacqueline Petros nous dressera enfin le portrait de ce monument de la comédie musicale de Broadway, Hall Prince, qui s'est éteint ce matin à l'âge de 91 ans. La météo, Sébastien Léas, instable sur le sud-ouest.
Oui, les averses sont encore localement orageuses au sud de la Garonne. Cette dégradation va progressivement se décaler vers le sud du massif central. Le soleil est déjà de retour sur les Landes et le Pays Basque, mais de nouvelles averses orageuses vont arriver sur l'Aquitaine en fin de journée. Ailleurs, l'après-midi alternera entre soleil et passages nuageux généralement inoffensifs. Côté température, prévoyez 20 à 29 degrés en général, mais jusqu'à 34 degrés autour de la Méditerranée.
Prévision complète à la fin de ce journal.
France Inter.
EDF, cité en exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière de délai de paiement. L'électricien, détenu à près de 84% par l'État français, écope d'une amende de 1,8 million d'euros pour avoir tardé à régler ses fournisseurs. C'est l'amende la plus sévère infligée en France pour non-respect des délais de paiement. Maxime Deps, bonjour.
Bonjour.
C'est un signal fort adressé aux mauvais payeurs.
Ouais, le message envoyé par les services de Bercy est clair. Que vous soyez entreprise publique ou privée, si vous ne respectez pas les règles, eh bien, vous êtes sanctionné. C'est comme ça, quand bien même EDF est majoritairement détenu par l'État. Si son cas peut servir d'exemple, tant mieux. Encore plus dans le contexte actuel, ce contexte où les Amazon, Google ont l'impression d'être pris pour cible, où Michel-Édouard Leclerc dit également ne pas comprendre pourquoi l'État veut le faire payer pour des pratiques qu'il juge abusive, il faut que chacun comprenne que les règles sont les mêmes pour tout le monde, d'où cette amende record, 1,8 million. Il faut que dans les conseils d'administration, les dirigeants des grandes sociétés réfléchissent à leurs actes et avec des sommes pareilles, ça commence à peser, veut croire un conseiller à Bercy. La loi Sapin 2, votée en 2016, a permis de relever le montant des amendes. La loi Pacte, adoptée au printemps, renforce aussi le name and shame, cette disposition qui autorise l'administration à publier les noms des mauvais payeurs et de porter un coup à leur réputation. C'est ce qui vaut donc à EDF d'être affiché ainsi aujourd'hui.
Explication de Maxime Deps. À Nantes, un témoignage vient fragiliser les résultats de l'enquête de la police des polices sur les événements de la nuit de la fête de la musique qui a abouti à la noyade de Steve Canisso. Ce témoin, c'est Romain, 33 ans, photographe de profession. Il affirme que son témoignage a été passé sous silence dans le rapport de l'IGPN. Jean-Philippe Deniau, bonjour.
Bonjour Christophe.
Un témoignage passé sous silence alors qu'il était le seul participant à avoir sollicité la plateforme de la police des polices.
Oui, Romain a porté plainte le 27 juin pour mise en danger d'autrui. Il décrit précisément la scène de panique qui s'est déroulée sur le quai Wilson quand les policiers ont mené la charge et tiré des grenades lacrymogènes à 4h37 du matin. « Je n'ai rien vu venir », témoigne Romain. « Tout de suite, on a suffoqué, je me suis accroupi pour être sous le nuage. Tout le monde courait n'importe où. J'ai crié, n'avancez pas, il y a la Loire, j'ai entendu les cris et le bruit des corps qui tombaient dans l'eau. Depuis cette plainte, plus aucune nouvelle. Et puis, surprise, Romain découvre avant-hier dans le rapport de l'IGPN que les enquêteurs lui auraient envoyé un mail pour recueillir son témoignage et qu'il n'y aurait donné aucune suite. Romain affirme n'avoir jamais reçu ce mail et son avocat Pierre Hurier se demande pourquoi le témoignage de son client a ainsi été négligé.
Ce n'est pas une plainte dans une démarche partisane, c'est-à-dire que ce n'est pas une plainte où on voit qu'il y a un parti pris qui consisterait à dire « tout est de la faute de la mairie, de la préfecture ou des policiers ». Non, il explique ce qu'il a vécu, l'absence particulière de moyens de sécurité en bord d'un fleuve, l'absence de sommation ou d'explication sur pourquoi tout d'un coup un gazage lacrymogène de cette ampleur-là, et puis des explications sur ce que ça représentait concrètement que d'être noyé dans ce nuage-là à 4h du matin sans plus d'explications.
Romain et son avocat attendent maintenant d'être entendus dans le cadre de l'enquête judiciaire et par le défenseur des droits.
Voilà, concernant les commentaires ironiques publiés sur Facebook pour se moquer de la mort de Steve Canisso. Nous vous en parlions ce matin sur France Inter. Un gendarme va faire l'objet d'une enquête administrative. Son compte personnel relayait l'un de ses messages. Concernant les émanations de plomb après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous vous en parlions en début de semaine, un collectif de syndicats CGT et d'associations demande le confinement total du site et la création d'un centre de suivi sanitaire. En cette veille du grand chassé croisé sur la route des vacances de l'été, c'est un phénomène qui interroge et qui inquiète. Près d'un Français sur trois, 37%, reconnaît ne pas hésiter à jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute. C'est le résultat d'une enquête Ipsos pour Vinci Autoroutes et ce chiffre est en hausse. Invité de ce journal, Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes, en charge justement de cette question du développement durable. Bernadette Moreau, bonjour.
Bonjour.
37% d'automobilistes et passagers pollueurs, c'est un chiffre important et il est en augmentation. Dans quelle proportion il augmente ?
Écoutez, il a augmenté de 4 points depuis l'année dernière. Et effectivement, c'est un chiffre qui nous interroge et qui nous inquiète parce que ces déchets jetés par la fenêtre, ce sont des déchets qui sont tout à fait évitables et qui peuvent avoir des conséquences très importantes, des conséquences en matière de pollution. Bien sûr, en matière d'incendie, on le voit bien, si on jette des déchets, des mégots par la fenêtre, en ce moment, ça peut être vraiment dramatique. Et puis, ça a aussi des conséquences en termes de sécurité, sécurité des usagers qui peuvent recevoir ces déchets. Mais bien sûr, et c'est très important pour nous aussi, pour les salariés, les agents autoroutiers qui ramassent ces déchets le long des voies. Parce que naturellement, tous ces déchets, il faut les ramasser pour garder les autoroutes propres et sûres. Et donc, ce sont des agents autoroutiers qui vont sur les voies les ramasser. Et pour nous, c'est un vrai sujet d'inquiétude.
Et quelle est la nature de ces déchets jetés par la fenêtre ?
Alors, ces déchets, ce sont des déchets très banal, ce sont des bouteilles plastiques, ce sont des emballages de sandwich, ce sont des canettes, des déchets que les conducteurs n'ont pas voulu conserver dans leur voiture, le temps de trouver une aire, pourtant il y en a tous les 15 km, et sur toutes les aires, il y a bien sûr des poubelles, il y a des dispositifs de tri des déchets, et c'est donc tout à fait regrettable que ces déchets ne soient pas conservés par les voyageurs le temps de trouver cette aire.
Voilà, et que faire pour enrayer ce phénomène ? La prévention, j'imagine qu'elle est déjà en vigueur ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment notre motivation à la Fondation Vinci Autoroute de faire appel au meilleur comportement, au comportement responsable des vacanciers. En l'occurrence, là, on lance une grande campagne aujourd'hui avec une affiche qui montre un agent autoroutier qui dit stop, qui a les mains pleines de déchets et qui dit stop, et qui dit en jetant vos déchets par la fenêtre, c'est moi que vous jetez sur la route. En fait, c'est ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire prendre conscience, finalement, à quand même beaucoup de vacanciers, de conducteurs, que jeter ces déchets par la fenêtre, ça ne doit pas se faire. C'est un geste qui est incivique et que donc la simplicité, c'est de prendre un petit sac dans sa voiture et puis d'attendre la prochaine aire pour aller vider ses déchets.
Et alors, justement, selon votre enquête, ces personnes se disent parfois conscientes de l'impact de ce comportement sur l'environnement et la sécurité. Comment expliquer cette dichotomie ?
En fait, il faudrait peut-être faire travailler des sociologues sur le sujet ou des psychologues, mais ce qui apparaît, c'est que bien souvent, les conducteurs vont avoir un geste un peu impulsif et finalement très individualiste parce que ils n'ont pas envie de garder un déchet ou un mégot dans leur voiture et oublier de penser au collectif qui est de préserver l'environnement, qui est de préserver la sécurité des autres usagers et des agents autoroutiers. Donc c'est un geste impulsif qui malheureusement va pénaliser l'ensemble de la collectivité parce qu'on va avoir des paysages qui vont être dégradés, on va avoir des routes qui vont être moins propres et puis on va envoyer des agents autoroutiers qui vont ramasser ces déchets et qui vont être exposés au danger de la circulation. Je rappelle un chiffre quand même qui est assez frappant. Sur le réseau Vinci Autoroute, par exemple, depuis le début de l'année, on a eu 32 fourgons d'intervention qui ont été percutés par des conducteurs qui s'étaient soit endormis ou qui étaient inattentifs. Donc chaque fois qu'on envoie un agent autoroutier sur les routes, quand c'est pour la sécurité des autres usagers, bien sûr que c'est important, c'est leur métier, ils le font, c'est la raison d'être de leur métier. En revanche, quand c'est pour des interventions qui peuvent être totalement évitables, c'est vraiment regrettable de les exposer.
Et dernière question sur la nature des déchets, on en a parlé tout à l'heure. Oui. La plupart proviennent des commerces et des restaurants, oui, hein, sur les aires d'autoroute. Alors j'imagine qu'il y a un travail à faire en amont là aussi.
Oui, 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 mais bien sûr, on a commencé à le faire. Alors il y a aussi la réglementation qui va évoluer, puisque tout ce qui est couvert en plastique, gobelet, à partir de 2020 et 2021, selon les catégories, ces déchets-là, enfin ces emballages-là, devront être supprimés. Mais après, c'est un travail effectivement que nous réalisons avec les installations commerciales pour les inciter à réduire les emballages, parce que un déchet, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc le mieux, c'est d'essayer d'éviter qu'il y ait des déchets. Et effectivement, nous faisons un travail avec eux pour les inciter à réduire ces emballages et puis aussi à contribuer avec nous à la sensibilisation de tous les usagers et leurs clients de l'autoroute.
Merci Bernadette Moreau d'avoir été en direct sur France Inter ce 13h. Vous êtes déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes. Le coup de rabot sur la prime à la conversion qui entre en vigueur aujourd'hui jette un froid chez les automobilistes et les concessionnaires. Le dispositif qui doit permettre de mettre au rebut les véhicules les plus anciens et les plus polluants était en place depuis 2018 avec un succès au-delà des espérances. D'où ce coup de rabot du gouvernement qui a décidé de resserrer les conditions et les montants alloués. Chez les professionnels, l'heure est au décryptage de cette nouvelle mouture. Reportage à Toulouse de Stéphane Iglesis.
Recentrer cette prime sur les ménages les plus modestes, exclure les voitures à plus de 60 000 euros, la destiner aux véhicules vraiment plus propres, voilà les trois objectifs annoncés par la ministre des Transports il y a quelques jours. Pour les garages, c'était hier encore le grand flou. Christophe Bezard-Falgas est directeur du garage Autowatt à Toulouse, véhicules électriques et au bioéthanol.
Les véhicules électriques sont éligibles, ça c'est sûr. Les véhicules éthanol que nous achetons proviennent de l'étranger, ce sont des véhicules éthanol d'origine et nous sommes aussi centre homologué éthanol. Donc cela aussi, il y a une grande question de savoir s'ils vont être éligibles. Puis les véhicules éthanol, de toute manière, on les vend même sans la prime et les véhicules électriques aussi. C'est juste une petite niche pour certaines, une sorte de clientèle.
Pour sa voiture ancienne, Stéphane voit sa prime divisée par deux, car elle n'est pas encore assez vieille.
Elle n'a pas 21 ans, elle est de 98, elle n'est pas de 97. Et ça enlève 1000 euros, voilà, au lieu de 2000 euros, comme on aurait pu avoir. Il faut vraiment pas gagner du tout l'argent pour pouvoir en bénéficier.
Certains, comme Jean-Louis, ont du coup renoncé à changer de voiture.
Moi, en étant une petite retraite, ma femme a un petit salaire au SMIC, c'est pas envisageable, quoi. Et ben, du coup, je suis obligé de la garder.
Le coût de cette prime à la charge de l'État a déjà dépassé de 300 millions d'euros, ce qui était prévu au budget 2019 dans ce domaine, d'où le coup de rabot effectué à partir d'aujourd'hui. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Vigilance maximale à Générac dans le Gard, deux jours après l'incendie qui a parcouru près de 490 hectares de végétation. 90 pompiers restent mobilisés pour empêcher toute reprise des flammes. Mais à Générac, au-delà du traumatisme, ce qui restera dans les mémoires, c'est la chaîne de solidarité qui s'est mise en place spontanément pour aider les agriculteurs. C'est tout un village qui s'est serré les coudes, comme l'a constaté Adrien Serrière.
Et dans la mise en place de cette chaîne de solidarité, les réseaux sociaux ont été déterminants.
Et on a une page Vivre à Générac et toute la soirée, on voyait des gens qui laissaient leur numéro de téléphone pour un terrain, pour des vannes. Vraiment une entraide, j'ai été surprise.
Parmi les appels de détresse, celui d'Eva Rosier a reçu de très nombreuses réponses. Cette monitrice d'équitation avait besoin d'aide pour évacuer ses chevaux et ses ânes.
Il y a vraiment des personnes qui ont traversé les flammes pour aller les chercher et... Ça c'est ouf, parce que mettre leur vie quand même en danger aussi pour des, entre guillemets, pour certains que des animaux, mais pour nous qui sont aussi tout, c'est très très touchant. Les gens sortaient avec les seaux d'eau pour nous donner à boire aux chevaux. Moi je sais que j'étais avec les chevaux en main, avec le pied, tout le monde venait pour aider. Enfin c'était, franchement ça c'était très touchant de la part de tous, quoi.
Agnès fait partie de ces habitants qui se sont mobilisés. Il a suffi d'un coup de téléphone d'amis à elle pour qu'elle abandonne ses activités et vienne aider à transporter des animaux.
Plein de messages et on est tous partis les rejoindre et puis voilà quoi. Ouais. Tout s'est bien passé, plus ou moins dans le calme et tout le monde est tranquille maintenant et puis voilà quoi. Ouais. On est humain quoi.
Humain et solidaire, c'est peut-être la définition de l'esprit de village que Générac n'est pas prêt d'oublier.
Voilà, reportage à Générac d'Adrien Serrière de France Bleu Gard-Lozère. S'agit-il d'un pas important pour la science ou du franchissement d'une ligne rouge en matière de bioéthique? Le Japon vient d'autoriser la création d'embryons animaux contenant des cellules humaines, une première mondiale qui divise la communauté scientifique. L'objectif est de permettre de développer des organes humains pour faire face à la demande de greffe. Point de vue d'un scientifique français, John DeVos, responsable de l'ingénierie cellulaire et tissulaire au CHU de Montpellier. Pour lui, c'est du sérieux et ça va être utile.
Le chercheur en question, Hiromitsu Nakaoshi, qui a lancé cette thématique il y a maintenant 10 ans déjà, en créant des souris porteurs de pancréas de rat, ou à l'inverse, des rats porteurs de pancréas de souris, donc déjà des animaux hybrides. C'est un chercheur qui travaille de manière très méticuleuse, avec beaucoup de précautions, justement pour ne pas prendre le moindre risque.
Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette expérience ?
Alors, les progrès médicaux qu'on peut en tirer in fine, c'est la production d'organes dans l'animal, y compris des organes sur mesure qui pourraient être parfaitement compatibles avec le receveur. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de rejet, plus de nécessité d'un traitement immunosuppresseur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes avec la transplantation d'organes pour greffer des patients. Le premier, c'est qu'il y a une pénurie d'organes. Et puis l'autre problème, c'est qu'il y a toujours incompatibilité immunologique et donc il y a besoin d'un traitement immunosuppresseur quand on greffe un organe à vie pour le patient qui reçoit l'organe.
Est-ce qu'on peut imaginer une telle expérience en France ?
C'est envisageable. Il y a quand même encore un flou au niveau juridique et réglementaire. La révision de la loi de bioéthique pourrait éclaircir cette problématique et éventuellement la rendre possible.
John DeVos du CHU de Montpellier au téléphone de Nicolas Teilhard. Les États-Unis accentuent la pression sur le régime iranien. Après l'ayatollah Khamenei, c'est le chef de la diplomatie iranienne qui est la cible de sanctions américaines, aussitôt qualifiées de puériles par le président Rouhani. Une pression maximale sur le régime de Téhéran, Christian Chéneau. Un régime accusé de déstabiliser le Moyen-Orient.
Oui, alors Mohamed Zarif a réagi avec flegme et humour à sa mise en quarantaine par les Américains. « Je n'ai aucune propriété ni aucun actif en dehors de l'Iran », a-t-il tweeté avant d'ajouter « Merci de me considérer comme une menace ». Pour l'Amérique de Donald Trump, Zarif est le visage du régime qui répand à l'étranger la propagande et des campagnes de désinformation favorables au programme nucléaire de Téhéran, à ses missiles balistiques et à ses réseaux terroristes, a fait savoir un haut responsable de l'administration américaine. Paradoxalement, la Maison-Blanche s'en prend à l'une des personnalités les plus américanophiles du régime iranien. Zarif a vécu et étudié aux États-Unis et parle un anglais irréprochable. Il est surtout l'architecte en chef de l'accord sur le nucléaire de 2015. Cette décision américaine est un coup dur porté aux efforts diplomatiques pour trouver une sortie de crise. Même si Mohamed Zarif pourra continuer de voyager à l'étranger et participer aux activités de l'ONU à New York, autre conséquence, les sanctions contre Zarif renforcent le camp des durs à Téhéran qui pousse à la confrontation avec les États-Unis. Seul le président Hassan Rouhani échappe encore aux sanctions américaines.
À l'instant, cette réaction de l'Union européenne qui dit regretter cette décision et affirme qu'elle continuera à travailler avec le chef de la diplomatie iranienne. Ryanair s'apprête à se séparer de 900 personnels, 500 pilotes et 400 membres d'équipage avec la chute de son bénéfice au dernier trimestre et une réduction de moitié des prévisions de croissance pour 2020. La première compagnie à bas coût d'Europe invoque la crainte de retard dans la livraison d'avions 737 MAX de Boeing. Premier test électoral aujourd'hui pour le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, avec cette élection partielle au Pays de Galles qui menace de fragiliser la courte majorité du Parti conservateur et ses deux sièges d'avance, et ainsi freiner la mise en œuvre d'un Brexit dur, Marina Daras.
Après les huées en Écosse et au Pays de Galles et le casse-tête de la frontière irlandaise, une nouvelle épreuve attend aujourd'hui Boris Johnson. Les élections de Brecon ne passionnent généralement pas les foules, mais cette élection en particulier, comme tout ce qui anime le Royaume-Uni ces derniers temps, sera majoritairement portée sur le Brexit. Les Gallois ont voté à 52,5% pour sortir de l'UE, mais cette circonscription rurale et agricole craint qu'un Brexit sans accord n'entraîne l'effondrement de leurs exportations vers l'Europe. Les conservateurs ne possèdent actuellement qu'une majorité technique de 2 sièges au Parlement. C'est grâce à la coalition organisée par Theresa May avec le DUP, le parti unioniste nord-irlandais, que les Tories possèdent un semblant de majorité parlementaire. Si les libéraux-démocrates venaient à remporter cette élection, la majorité technique de Boris Johnson tomberait à seulement 1 siège, ce qui réduirait fortement ses chances de faire passer quelque loi que ce soit devant la Chambre des communes. Autre problème, en cas de vote de défiance organisé par l'opposition, Boris Johnson perdrait un allié supplémentaire. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Et puis le coût du Brexit, le Royaume-Uni annonce ce matin mobiliser 2,1 milliards de livres supplémentaires pour le stockage de médicaments, l'embauche de douaniers et autres campagnes d'information dans la perspective d'un Brexit sans accord. Le roi des comédies musicales de Broadway s'est effacé ce matin. Hall Prince, qui avait notamment monté le Fantôme de l'Opéra et Cabaret, est mort ce matin en Islande à l'âge de 91 ans. Au cours de son immense carrière, il avait reçu 21 Tony Awards, qui récompensent le théâtre aux États-Unis. Jacqueline Petros, bonjour.
Bonjour Christophe.
Hall Prince était un monument des comédies musicales qui ont fait le triomphe de Broadway, notamment parce qu'il avait réussi à traverser les époques.
Alors la carrière de Hall Prince est le type même de l'ascension à l'américaine. À 20 ans, passionné de théâtre, il est engagé à Broadway comme comme homme à tout faire, mais très vite il est associé à la production et à 27 ans, Hall Prince décroche un premier Tony Award, puis, excusez du peu, il sera le producteur en 57 de West Side Story. Mais c'est en choisissant la mise en scène qu'il transforme Broadway, comme en 66 avec le mythique Cabaret, bien sûr, et Joël Grey.
Welcome and bienvenue, welcome. Étranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay.
Puis il signe parmi d'autres les mises en scène de Un violon sur le toit ou Evita. Elles sont souvent simples, efficaces, quelques objets, des tentures. Hall Prince crée une atmosphère, une époque. Mais la plus fastueuse de ces mises en scène sera celle du fantôme de l'opéra en 1988. Trente et un ans plus tard, la comédie musicale est toujours à l'affiche. Hall Prince détient le record des récompenses avec 21 awards, vous l'avez dit. Demain soir sur Broadway, les lumières s'éteindront une minute pour lui rendre hommage.
Voilà, hommage à Hall Prince avec vous, Jacqueline Pétrose. On termine avec la météo de ce jeudi après-midi. Mitigée notamment sur le sud-ouest, nous dit Sébastien Léas.
Après-midi plutôt perturbé entre les Pyrénées, les bords de la Garonne et le sud Auvergne avec des averses localement orageuses. Ces averses et ces orages se dirigent progressivement vers le Tarn, l'Aveyron et la Lozère et l'Aquitaine retrouve des éclaircies. Une deuxième vague orageuse va aborder le sud-ouest en fin de journée et début de nuit. D'autres averses moins nombreuses et nettement moins actives peuvent également se produire à l'est du Rhône et des Charentes au Limousin. Partout ailleurs, l'après-midi est nettement plus calme. Si quelques paquets nuageux circulent dans le ciel, notamment sur le pourtour méditerranéen et entre la Bretagne et les Hauts-de-France, ce sont surtout les belles éclaircies qui s'imposent cet après-midi, avec plus de soleil sur les plages de la Manche et le quart nord-est. Côté température, cet après-midi, il fait 23 degrés à Vannes et à Abbeville, 25 degrés à Rouen, Lille et Bordeaux, 27 degrés pour Paris, Strasbourg et Nice, on ira jusqu'à 29 degrés à Lyon et Perpignan, 30 degrés à Marseille et Bastia et 32 degrés pour Nîmes.